Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission « Vivement les femmes » depuis le studio de Rimouski. Aujourd'hui, il est question de santé physique, émotionnelle et psychologique. Il sera question aussi de ressenti, de spiritualité, de médecine alternative, de mains bienveillantes. Pour nous parler de tout cela, nous recevons Manon Smithers, ostéopathe passionnée par le comportement humain, toujours à l'écoute du corps et de ses mémoires. Bonjour Manon Smithers, bienvenue à Vivement les femmes.
Bonjour Marthe.
Lorsque je parle d'ostéopathie autour de moi, je m'aperçois qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas ce que c'est. Ils mélangent tout ça. Pouvez-vous nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est, l'ostéopathie?
Oui, il y aurait bien des définitions à l'ostéopathie. Disons, le but de l'ostéopathie, c'est de libérer les nerfs, les artères, les veines, la lymphe. Finalement, libérer tout ce qui circule de toute entrave qui peuvent être des compressions par des organes, par des os qui sont pas tout à fait dans leur bonne position. Donc, tout ce qui peut entraver les nerfs, les artères, les veines, la lymphe, le but de l'ostéopathie, c'est de les dégager pour que le corps puisse faire ce qu'il a à faire dans le plus parfaitement possible. Le fondement de l'ostéopathie, c'est que le corps est une machine parfaite et qu'il suffit de libérer ses contraintes pour qu'il fonctionne bien.
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut parler de déblocage ou de blocage dans le...
Oui, on peut l'appeler comme ça. Il y a différents termes pour l'utiliser. Mais oui, c'est déblocage. On peut utiliser l'analogie d'un boyau d'arrosage. Si on pile sur le boyau d'arrosage, l'irrigation se fait pas très bien. Donc, c'est un peu la même chose dans le corps. Si quelque chose qui entrave une artère, le fonctionnement de là où l'artère doit aller irriguer n'est pas optimal.
Mm-hmm. Et on peut parler aussi, on pense aux os aussi, on pense à pas juste, là, vous parlez comme les nerfs, mais ça peut être n'importe quoi aussi qui est bloqué ou qui est coincé.
Oui, en fait, c'est ce qui va obstruer le nerf. Et souvent, c'est par exemple la clavicule, elle n'est pas dans sa position optimale, elle est moins mobile qu'elle devrait l'être. Mm-hmm. Donc, tout ce qui circule vers le bras et qui passe par la clavicule va être dérangé,
oui.
Plus ou moins.
Mm-hmm. Et on parle davantage de soins ostéopathiques que de traitements. Pourquoi?
Pourquoi? Ah, bonne question. On peut utiliser les deux termes.
Oui.
C'est sûr que là, il y a de la reconnaissance de l'ostéopathie qui est en train de se faire. Donc, on utilise plus le mot soin que traitement. Les deux sont bons, là.
Mm-hmm. Et souvent, quand on parle de blocage, c'est pas nécessairement dû à une chute ou un accident. Ça peut être notre corps qui se déstabilise à cause des émotions?
Oui, exactement. En fait, il y a plein de choses qui peuvent occasionner des blocages dans le corps, à commencer par la naissance. Déjà, déjà intra-utérin, il peut avoir eu des compressions, il peut avoir eu des chocs émotionnels qui a fait que le fœtus s'est contracté déjà.
Mm-hmm.
Et à la naissance, c'est le premier grand traumatisme de l'être humain.
Oui.
C'est quand même dur pour la femme et dur pour l'enfant de sortir par ce canal. Donc, il y a souvent déjà des compressions, des endroits qui sont un petit peu moins mobiles et qui nous suivent toute la vie. Et puis, à travers la vie, on accumule toutes sortes de blocages. On tombe dans les marches quand on est petit. On est stressé dans la vie tranquillement dans notre travail. On a une peine d'amour. Donc, c'est plein de choses qui s'ajoutent les unes par-dessus les autres. Et quand on voit quelqu'un, bien, c'est un peu... on enlève ça un peu en pelure d'oignon.
Oui, comme des couches, hein?
Oui, oui.
Et qu'est-ce qu'on doit avoir comme douleur ou comme souci de santé qui va nous inciter à consulter une ostéopathe, Manon?
En fait, de tout, je dirais. Même, j'ai lu beaucoup sur les fondements de l'ostéopathie depuis Andrew Taylor Steele, qui a fondé l'ostéopathie exactement en 1874.
Mm-hmm.
Et j'ai été étonnée de voir à quel point il traitait tout. En fait, lui a fondé l'ostéopathie parce que trois de ses enfants sont décédés de la méningite.
Oui.
Et ça a amené un grand cheminement, une grande intériorisation sur le sens de la vie.
Oui.
Et ça l'a amené à... En fait, il a pris une décision que la vie était bien faite, le corps est parfait. Et dans des situations comme ça, on peut décider d'être victime ou on décide d'être d'avancer puis d'être en quelque part créateur. Là.
Oui.
Donc, il a créé l'ostéopathie comme ça en étudiant le corps humain avec la grande conviction que le corps est une machine parfaite et qu'il a juste besoin d'aide pour pour libérer ce qui est coincé pour oui. que le corps fonctionne bien.
Mais on vous appelle à cause de problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes, plus récurrents, genre des maux de dos, des maux d'épaule? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va se décider à aller voir, à consulter une ou un ostéopathe?
Oui, la plupart du temps, c'est les raisons de consultation, c'est ce que vous avez nommé.
Oui.
Mais souvent, les gens notent aussi d'autres choses qui ont changé dans leur corps. Ah, oui. Je digère mieux. Ah, ma tension artérielle a baissé. Oui, il y a plein de choses qui se passent dans le corps. Puis il y en a qui le savent aussi, que l'ostéopathie a des répercussions sur tous les systèmes. Mm-hmm. Puis comme je disais justement au niveau des fondements de l'ostéopathie, celui qui a fondé l'ostéopathie, c'était un médecin.
Oui.
Donc, il traitait tout avec ça. Mm-hmm. Donc, du choléra dans le temps,
de la
diphtérie, de tout, des pneumonies. Mm-hmm. Puis dans ma formation, ce qu'on apprenait plus, c'était les problèmes musculo-squelettiques.
Oui.
Mais aussi, on savait qu'on avait des répercussions sur les organes, les viscères et tout le fonctionnement de l'ensemble du corps.
Mm-hmm.
On n'avait pas tant adressé les maladies qu'on pouvait aussi lesquelles on peut aussi avoir un impact.
Puis est-ce que c'est douloureux? Je suis sûre qu'il y a des gens qui se posent ces questions-là. Est-ce que c'est douloureux un soin homéopathique?
Ostéopathique.
Ostéopathique, pardon.
Oui.
Moi, je me trompe.
Oui, oui.
Ostéopathique.
Non, en fait, souvent, les gens aiment bien l'ostéopathie parce que c'est très doux.
Mm-hmm.
C'est très, très doux.
Ça fonctionne comment? Vous mettez vos mains? Est-ce qu'il y a des appareils?
Non, c'est vraiment un traitement qui est qu'avec les mains. Et c'est des mains qui voient, qui sentent et qui pensent. Comme disait pas le fondateur de l'ostéopathie, mais celui qui lui a succédé.
Mm-hmm. On va en parler plus tard, d'ailleurs.
Oui, donc c'est... Avec nos mains, nos mains deviennent très, très habiles, très, très sensibles. Et à force de travailler avec les gens et d'avoir les mains sur les gens, on vient à avoir des perceptions...
Une lecture, hein?
Oui, une lecture, exactement. On est comme le psychologue du corps humain, finalement.
Oui.
On écoute avec nos mains.
Oui.
Et c'est là où on peut, à force de pratiquer, les ostéopathes finissent par... sentir la vie qui est dans le corps, comment est-ce que ça vit, les tissus, comment est-ce qu'il respire, comment est-ce que il bouge et tout ça.
Et comment ça se déroule dans votre cabinet? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais consulté en ostéopathie. Est-ce qu'on s'assoit? Est-ce qu'on est couché? Est-ce qu'on se déshabille? Comment ça fonctionne?
Ça dépend des ostéopathes, ça dépend de la fin de l'approche.
Okay.
Parce qu'on va parler plus
tard aussi de la différence d'approche. Ouais.
Moi, quand j'ai fait ma formation, on se mettait en sous-vêtements pour mieux voir. Puis c'est une bonne façon de commencer aussi.
Oui.
Avec l'approche que je fais, j'ai moins besoin de faire déshabiller les gens. Donc, les gens se mettent juste en vêtements confortables. Puis ils sont souvent allongés, mais j'ai besoin des fois de les faire asseoir, dépendant de ce que je travaille.
Oui, comme au niveau du dos peut-être?
Oui, mais c'est ça. Ça dépend de ce que j'applique comme travail.
Et combien de fois on doit y aller? Est-ce qu'on ne peut pas régler, je présume, notre souci de santé ou notre problème en une fois?
Oui. Encore là, ça dépend des problématiques. Puis moi, j'y vais d'une fois à l'autre. Il n'y a pas de traitement prédéterminé, que ça va te prendre tant de temps. On regarde ça un à la fois. C'est sûr que je suggère souvent aux gens d'essayer 3 traitements.
Oui.
Parce que ça nous donne le temps de faire le tour. Parce que, comme je disais, on enlève un peu en pleure d'oignon. Donc, on ne règle pas tout la première fois. Il y a des compensations. Il y a des choses qui sont accumulées depuis des années. Donc, 3 traitements, ça fait un bon ménage, disons.
Oui. Puis est-ce qu'on y va chaque semaine, comme un psychologue? Est-ce qu'on y va chaque semaine, chaque 3 semaines, une fois par mois?
Encore là, ça dépend de l'ostéopathe. Ça peut être une semaine, 2 semaines. Mais entre les 2 premières fois que je vois quelqu'un, j'aime mieux pas trop espacer pour qu'il y ait un suivi quand même, que ça redevienne pas, ça prend pas le recul.
Oui. Puis en même temps, pas trop coller, j'imagine, pour laisser le temps au corps de se replacer. Parce que des fois, ça fait des années que le corps fonctionne un peu en déséquilibre.
Oui, ça prend une bonne semaine où ça travaille encore, où les gens vont dire « Ah, ça m'a travaillé ». Souvent, les 2-3 premiers jours, c'est plus évident, mais dans la semaine, ça va encore travailler, là. Donc, il y a au moins une semaine entre les deux.
Thank you. Manon Smithers, on s'est arrêté tantôt pour savoir si ça faisait mal et tout ça. Et il faut quand même mentionner que avant, quand on va vous consulter, il y a quand même une mini-entrevue avant les traitements pour savoir exactement comme vous traitez pas seulement le corps physique. Vous allez questionner pour savoir si la personne est tombée, si elle vit des conflits avec des membres de sa famille ou quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même une entrevue avant l'heure du soin.
Oui, en fait, c'est l'anamnèse. Okay. Qu'on appelle. Et c'est un questionnaire vague. Je ne vais pas lui demander nécessairement si elle a eu un conflit, mais je vais demander si elle vit des choses difficiles en ce moment-là. Mm-hmm. Mais c'est aussi toutes des questions sur sa santé en général. Là.
Oui. Donc, son alimentation et tout.
Oui, ça peut être ça aussi, oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Les habitudes de vie, etc.
Et puis, le traitement dure, c'est ça, une heure?
Oui.
Et on peut s'attendre à combien à peu près au niveau du tarif? Parce que les gens qui nous écoutent, il y en a qui n'ont aucune idée.
Oui, c'est variable, ça aussi. J'imagine des régions, dépendant des régions aussi.
Oui.
Mais ça peut varier entre 100 et, je ne sais pas, 100, 130, 150.
D'accord.
Ouais. Okay, je ne suis donc, pas au courant des tarifs à Montréal en ce moment.
Non, mais en tout cas, au moins, on a une idée. Hein? Oui. On sait que ce n'est pas 25 $, puis on sait que ce n'est pas 500 non plus.
Oui, c'est ça. Puis ça dure une heure aussi.
Ça dure une heure,
voilà. En général.
Ah, c'est ça, hein?
Oui,
donc
on prend
la moyenne.
Le temps. Oui, puis c'est vraiment un soin où on prend le temps avec la personne. C'est mm-hmm. pas une personne après l'autre. Là.
Ouais,
c'est,
ce que
c'est ce que j'apprécie d'ailleurs de mon travail, c'est que j'ai le temps d'être là avec la personne, puis la personne a le temps aussi d'être entendue, de se poser. Donc, ça apporte beaucoup autant pour la personne que pour le soignant.
Mm-hmm. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas seulement sur le plan physique, c'est aussi... qu'est-ce qu'on doit traiter en premier, Manon? Est-ce qu'on doit traiter l'esprit ou le corps? Ou mm-hmm. On commence par quoi?
En fait, le fondateur de l'ostéopathie a donné une seule définition à l'ostéopathie, donc ça va compléter ce que j'ai dit ce matin, c'est que l'ostéopathie, c'est la loi de l'esprit, de la matière et du mouvement.
Oui.
Donc, c'est indissociable, tout ça. Le corps, les émotions, le mental, l'âme, c'est un tout.
Mm-hmm.
Et puis, même si on regarde le corps si on regarde le corps, de quoi il est composé de cellules, et c'est du tissu, c'est de la matière. Et les cellules sont composées elles-mêmes de molécules, mm-hmm. et sont composées de molécules d'eau. Donc, finalement, si on regarde, plus on regarde petit, plus on change de niveau, si on veut. Donc, si on pense au corps en termes de molécules, on est fait d'eau à 99%.
Oui.
Et si on voit encore plus petit, les molécules d'eau sont composées de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Et ça, c'est quoi? C'est de l'énergie en mouvement. Donc, on est quoi, finalement? Si on regarde au niveau subatomique, on est de l'énergie. Si on regarde un peu plus gros, on est de l'eau. Si on regarde un peu plus large, on est un corps physique. Mais où est la limite du corps là-dedans si on est finalement toute de l'énergie? Et donc, dans l'approche que je fais, qui est l'approche biodynamique de l'ostéopathie, on considère tous ces aspects-là de la personne. Mm-hmm. Et c'est indissociable.
Donc, est-ce que ce soin-là, en ostéopathie, peut se jumeler et être combiné à d'autres soins comme l'homéopathie, comme la kinésiologie ou des choses comme ça?
Oui, tout à fait. Ça fonctionne dans le même sens. Les philosophies sont similaires, comme l'acupuncture, l'homéopathie. C'est vraiment des visions holistiques, finalement, du corps humain.
Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, on peut combiner ça.
Oui.
Et sommes-nous plus intéressés, d'après vous, qu'avant, à ces soins plus naturels?
Les gens vont naturellement vers ça.
Plus qu'avant? Est-ce que vous avez observé une différence, en fait, dans la clientèle?
Depuis que je pratique, j'ai toujours eu de la clientèle et je pense que c'est assez...
homogène?
Oui, assez homogène, mais je dirais à travers plusieurs années, c'est de plus en plus connu, là, si on recule. Oui. La première école d'ostéopathie au Québec, elle est arrivée en 1981. Donc, c'est une jeune profession au Québec, mais c'est une vieille profession dans le monde. Oui, c'est ça, parce qu'aux États-Unis, c'est de 1874.
Est-ce qu'on a raison de penser que les femmes consultent plus que les hommes?
Oui. Oui. Bien, quoi que moi, dans ma clientèle, j'ai pas mal moitié-moitié, mais je pense qu'il y a quand même plus de consultations des femmes.
Et comment vous expliquez ça? Est-ce qu'elles sont plus à l'écoute de leur corps ou elles ont plus de problèmes? Je sais pas.
Bonne question. Bien, quoi que moi, justement, j'ai à peu près moitié-moitié. Donc, j'ai toutes sortes de clientèles et toutes sortes d'âges aussi. Mais oui, peut-être que les femmes sont plus à l'écoute de leur corps ou vont plus être portées à prendre soin d'elles et à s'arrêter que les hommes.
Oui. Elles vont peut-être penser plus à long terme, j'ai un problème, si je le règle pas, il va empirer ou quelque chose comme ça.
Oui,
ils sont peut-être possible. Un peu moins durs avec leur corps que les hommes.
Oui, je dirais plus à l'écoute, je pense. Plus sensible de leur corps.
Mm-hmm. Est-ce qu'une femme enceinte peut consulter?
Oui, tout à fait, oui.
Et je présume quand vous faites le soin, vous sentez le bébé, vous...
Oui. Oui, parfois, lorsque la femme enceinte est couchée sur le côté, j'ai mon ventre sur son ventre, je sens le bébé bouger, puis ça me rappelle des souvenirs de ma grossesse.
Oui. Puis est-ce que vous traitez aussi les bébés?
Oui. Quoi qu'il y a des ostéopathes qui voient que des bébés, donc c'est pas la majorité de ma clientèle, mais j'en vois à travers ma clientèle.
OK. Et qu'est-ce qui fait qu'une mère ou un père va décider d'amener son enfant ou son bébé? Je présume que vous avez des bébés qui ne parlent pas, donc comment la mère sait, admettons, que l'enfant a un souci?
En fait, certaines femmes nous l'amènent de toute façon pour voir si tout va bien.
Okay.
Donc, juste pour un check-up, finalement. Mm-hmm. Mais sinon, ça peut être des problématiques comme du reflux, des problèmes de sommeil, difficulté de succion, un développement qui ne se fait pas bien. Donc, ça peut être plein de choses. Mm-hmm. Un torticolis.
Oui, bien souvent, à la naissance, il y a des nerfs qui coincent dans le cou.
Ça arrive souvent avec l'accouchement, qu'il y a eu des bonnes compressions au niveau de la base du crâne.
Mm-hmm. Et de quelle manière la nature... l'alimentation, nos croyances influent sur notre santé physique et psychique?
Ah oui, ça, c'est une bonne question parce que ma thèse en ostéopathie, c'était justement sur la part du patient dans la progression des traitements. Et puis là, j'ai passé plusieurs ostéopathes en entrevue pour demander qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, ça évolue bien et chez d'autres, malgré nos bons soins, ça semble stagner.
Oui.
Et donc, ça a été très intéressant parce que tous les éléments, finalement, qui entourent la santé ont sorti, comme les influences de nos émotions.
Oui.
Les émotions qui ne sont pas adressées continuent de signaler au corps. Donc, c'est quand même une bonne chose, des fois, d'avoir de la douleur parce que c'est un signal qu'il y a quelque chose qui cherche à être entendu,
oui.
qui n'a pas été entendu.
Nommé et entendu.
Oui, c'est ça. Ça peut être le mental, des croyances erronées, la position de victime, c'est de la faute des autres ou c'est « je suis bon rien », c'est des pensées qui vont amener des émotions négatives qui vont créer des tensions dans le corps et qui vont aussi contribuer à l'obstruction.
Oui.
Mais ça peut être aussi au niveau physique. Donc, l'alimentation, est-ce que la personne est très sédentaire ou elle s'active, les polluants qui sont partout dans l'alimentation, dans l'air, dans l'eau. Donc, c'est tous des éléments à considérer au niveau de la sphère physique. Et qu'est-ce qu'il manque? Il manque la sphère spirituelle.
Oui.
Donc, le sens que la personne donne à sa vie, une personne qui ne sent plus n'est plus sur son chemin de vie, peut sentir son corps, justement, des tensions dans son corps parce qu'elle n'est plus alignée avec qui elle est.
Mm-hmm.
Et il y a la sphère sociale aussi. Si on est dans des relations toxiques,
oui.
C'est évidemment, ça va influencer notre corps. Et notre corps peut nous donner des signaux qu'on n'est pas bien dans la relation et qu'il y a peut-être des changements à apporter.
Oui. Et ceci, si je comprends bien, ça veut dire que pour que le soin soit efficace, il faut en fait qu'il y ait une espèce d'harmonie entre tous ces éléments-là. On ne parle pas d'un corps qui ne répond pas peut-être aux soins, mais plutôt que tous les éléments que vous venez de nommer ne sont pas réunis ou sont en déséquilibre.
Oui, c'est ça. Donc moi, quand je vois que ça semble stagner, je vais poser des questions à la personne. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ta vie? Comment ça se passe dans ta famille? Ou quand je vois que ça semble être quelque chose de plus ancien, je demande des questions sur le passé. Est-ce qu'il y a eu des choses difficiles dans ton passé? T'sais? Donc, je vais vraiment ouvrir la porte puis je laisse la personne répondre.
Ma Manon Smithers, vous avez fait votre formation au Collège d'études ostéopathiques à Montréal de 2005 à 2010. Mm-hmm. Parlez-nous de la formation que doivent suivre un ostéopathe.
Il y a différentes formations, différentes écoles encore aujourd'hui. Il y a des démarches pour la reconnaissance de l'ostéopathie qui va probablement cadrer tout ça. Donc, il y a des écoles qui c'est un an là, de formation. Mm-hmm. Et la mienne, c'était 5 ans. 5 ans pour moi à temps partiel parce que j'avais déjà un bac en ergothérapie. Donc, oui. Tous ceux qui avaient des bacs en sciences santé comme ergo, physio, dentiste, médecin, etc., pouvaient faire le temps partiel 5 ans. Sinon, il y a un programme aussi temps plein 5 ans.
OK.
Alors là, ça revient finalement à des études de chiro, de dentiste, là, comme un doctorat de premier cycle. Là,
oui. Donc, on est dans l'étude privée pour l'instant.
Oui, c'est encore privé. Mm-hmm. Oui, c'est des gros coûts quand même, les
oui,
études.
Oui. Ouais. Oui, j'imagine. Et la popularité des médecines alternatives ou douces, ça s'explique par la difficulté de consulter un médecin dans notre système ou pas?
Je dirais que je pense que les gens recherchent d'autres solutions aussi.
OK.
Mais oui, évidemment, on est au privé, donc les gens peuvent venir nous voir rapidement. On adresse des choses aussi qui ne sont pas nécessairement adressées en médecine.
Comme?
Mais en fait, les gens n'ont pas nécessairement envie de prendre une pilule pour cacher des symptômes. Donc, en ostéopathie, on va vraiment... On fait rien, en fait.
On fait rien.
C'est un peu ce que je dis des fois. Ben, c'est ce que, en fait, les profs nous disaient pendant que j'étais étudiante. Puis j'étais là, ben non, ça se peut pas, on fait quelque chose. Mais en fait, c'est le corps qui se soigne tout seul. Nous, on dégage les structures. Mm-hmm. Donc, c'est... Les gens cherchent à aller en amont de leurs problèmes puis de régler le problème à la source.
Oui.
Et c'est ce que fait beaucoup de médecine alternative.
Oui. Mm. Et est-ce que vous pouvez nous parler des différentes... On parlait tantôt des écoles de pensée. Il y en a plusieurs. Mm-hmm. Puis de pratiques, est-ce que vous pouvez nous en parler, élaborer un peu sur quelques-unes?
Les différentes pratiques en ostéopathie?
Oui, puis les écoles de pensée.
Oui, bien en fait, dans les fondements de l'ostéopathie, il y avait vraiment un aspect spirituel qui a été graduellement tassé pour plusieurs raisons, mais beaucoup des raisons politiques. Des raisons de vouloir... comme c'est parti, en fait, aux États-Unis et c'était de la médecine ostéopathique.
D'accord.
Donc, aux États-Unis, les ostéopathes sont encore des médecins, mais ils ont voulu être reconnus par la médecine. Donc, le côté pharmacologique s'est beaucoup inséré dans l'ostéopathie, ce qui fait que l'ostéopathie n'est plus ce que le fondateur voulait au départ.
Ah oui,
il ne voulait rien savoir qu'il y ait des médicaments là-dedans. Il voulait que l'ostéopathie reste de l'ostéopathie.
Mm-hmm. Que le corps se soigne par lui-même avec de l'aide.
Oui, c'est ça. En fait, il dit toute la pharmacie, elle est dans le corps.
Oui.
C'est vraiment ça. On a tout ce qu'il faut dans notre corps, mais s'il y a des structures qui sont comprimées, le corps n'a plus accès à ces médicaments naturels qui sont à l'intérieur.
Oui.
Donc, c'était vraiment sa vision, aller dégager les structures pour que le corps aille chercher ses remèdes en bonne quantité. Ils vont à la bonne place, à la bonne dose. Il n'y a pas d'effet secondaire. Donc,
Se régénérer, en fait.
Et se régénère, et c'est un des principes de l'ostéopathie, c'est la capacité du corps de s'auto-réguler, de se régénérer.
Oui. Donc, il y a cette pensée, il y a cette école de pensée-là, est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, donc ça, c'était à l'origine, disons, cette vision originelle est restée... à mon collège, on était quand même assez, je trouve, dans la lignée des fondements de l'ostéopathie. Il y en a d'autres collèges qui vont être plus dans la mécanique pure et dure, là. Donc, on mobilise les structures, mais il n'y a pas autant de dialogue avec les tissus. On parle de dialogue avec les tissus.
C'est
une drôle de terminologie. Nous, on l'utilise toujours. Et je me demandais, justement, quand j'étais en première année, dialoguer avec les tissus, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est vraiment l'écoute de ce qui se passe dans le corps avec nos mains.
Oui.
Et comme étudiant, on peut poser la question, mais quelle force je dois appliquer? Comment je fais pour savoir?
C'est ça.
Donc, c'est vraiment cette habilité à ressentir ce qui se passe dans le corps et voir comment le corps répond à nos mains.
Mm-hmm.
Donc, ça finit par se faire tout seul.
Est-ce que vous parlez aussi de quelle force je dois mettre? Est-ce que les ostéopathes mettent de la force quand ils font des manipulations?
Il y a des manipulations qui demandent plus de force, mais c'est vraiment entre guillemets. Là, c'est, ils ont des manipulations que les gens vont vraiment sentir que, OK, il m'a bougé.
Ça vient
là,
de débloquer, oui.
Puis des fois, les gens se demandent si je fais quelque chose.
Oui, c'est
ça. Au point aussi subtil.
OK. Oui. Et je présume que tous les ostéopathes ne pratiquent pas de votre manière. Il doit y avoir plusieurs pratiques.
Bien, justement, certains vont être vraiment plus mécaniciens.
Oui.
Et d'autres vont être dans le très subtil.
Est-ce qu'on peut comparer ça un peu au chiropraticien?
Mais même, en fait, à l'origine, apparemment que le fondateur de la chiropratie,
oui,
a été à l'école d'ostéopathie.
Ah oui, OK, d'accord.
Donc, c'est de là qu'il serait parti son idée de chiropratie. Mais c'est pas la même façon de faire que les chiros.
Mm-hmm.
C'est toujours quand même beaucoup plus doux.
Oui. Je pense que c'est la douceur. Hein,
la douceur, le dialogue avec les tissus. Je mm-hmm. pense que c'est la grosse différence. C'est toujours assez long aussi, là. Donc, on ne fait jamais un soin qui dure 15 minutes.
Mm-hmm.
Ça prend une heure. On va adresser une structure directement, disons, mais on va aussi voir tout ce qui est alentour, qui maintenait
oui.
cette structure-là dans une mauvaise posture.
Oui. Donc, vous pouvez travailler sur plusieurs structures dans
oui.
une heure.
Oui, vraiment.
Okay.
Oui, et puis on peut passer de la tête aux pieds, là.
OK. Mm. Puis dans combien de temps on voit des résultats, Manon?
Souvent immédiatement.
OK.
Et parfois, ça peut prendre la semaine. Des fois, ça va au deuxième soin.
Mmh. Est-ce que les femmes pratiquent... mes idées voyagent. Est-ce que les femmes pratiquent plus cette profession-là que les hommes?
Oui, dans ma classe, il y avait quand même plus de femmes. En mmh. général, c'est une profession plus de femmes, mais je dirais peut-être un 20 % d'hommes.
OK. Mmh. Et vous avez parlé avec ma recherchiste de la méditation. Quel lien on peut faire entre l'ostéopathie et la méditation?
Mmh. C'est très personnel. Je dirais que la méditation, c'est bon pour tout le monde, pour toutes les professions.
Oui, bien sûr.
Lorsqu'on est bien aligné, tout se passe mieux dans la journée. On est centré, on est plus à l'écoute. Pour moi, ça me permet vraiment d'être dans ma bulle, si on veut, d'être dans mon espace, de laisser mes problèmes de côté
mm-hmm.
pour être vraiment pleinement à l'écoute de la personne.
Oui.
Et oui, donc d'être plus réceptive, plus disponible.
OK. Mmh. Donc, c'est vous, en fait, qui faites la méditation, c'est pas votre patient?
Non, c'est moi. Oui, toujours avant de commencer ma journée, je fais au minimum un 15 minutes pour... Puis je vois la différence, là.
Mmh.
Je vois la différence quand je le fais pas, disons que j'ai eu un imprévu
oui.
et j'ai pas eu le temps, je me sens un petit peu moins focus, un okay. peu moins... C'est différent.
Est-ce qu'il y a des gens qui dorment sur votre table?
Ah, souvent. Qui ronflent. Oui.
C'est ça, c'est comme une table de massage, en
oui,
fait.
Oui,
hein,
c'est ça.
Avec le beigne et tout.
Oui.
Donc, il y en a, oui, il y en a qui dorment.
Oui, ça
qui
arrive
ronflent.
Très souvent.
Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent.
Je suis en compagnie de Manon Smithers, ostéopathe et enseignante. Manon, dans quel terreau vous avez grandi? Qu'est-ce que faisaient vos parents?
Oh, mon Dieu, mes parents... mon père était chirurgien et ma mère était biologiste.
Oh oui, quand même. Donc, c'est pas un hasard que vous soyez dans le domaine de la santé?
Oui, oui, je dirais. Puis ma mère avait... Étonnamment, c'est pas tant mon père que ma mère qui avait beaucoup d'intérêt pour les médecines alternatives, puis les plantes médicinales. Elle faisait ses propres potions.
Ah oui?
Je me souviens de la teinture mère de consoude, plein de choses comme
ah,
ça.
Ah oui, carrément?
Oui, oui. Puis l'alimentation aussi. Dans la santé, c'était un thème quand même très présent chez nous.
Mm-hmm.
On avait un grand potager, puis on a toujours bien mangé. C'est toujours été quelque chose d'important.
D'ailleurs, vos parents ont quitté la Belgique dans les années 70.
Oui.
Et de quelle manière l'éducation se passe, une éducation, je dirais, belge dans un milieu québécois?
Ben, chez moi, il y avait des valeurs, disons, plus hiérarchiques qui viennent, à mon avis, de la Belgique.
Ou de l'Europe en particulier?
De l'Europe, peut-être toute l'Europe. Ah oui, vous connaissez ça un petit peu.
Oui, 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 j'ai un mari français. La hiérarchie, c'est important.
Oui, oui. Donc, il y avait... les valeurs d'obéissance, c'est important chez nous. Là.
Mm-hmm. Mm. Et puis, avec au Québec?
En fait, mon père a quitté la Belgique un peu pour ça, parce qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités aussi au Québec comme chirurgien dans ce qu'il voulait faire. Je me souviens
oui.
qu'il disait qu'en Europe, en Belgique en tout cas, sa carrière était déjà déterminée. C'était pas lui qui décidait. Il allait en recherche, d'après ce que je me souvenais.
Okay.
Puis quand il est venu au Québec, il y avait plein de portes qui s'ouvraient devant lui. Puis il a vraiment...
Il a pu pratiquer
ce qu'il avait envie. Je pense qu'il y avait une équipe aussi avec d'autres Belges.
Ils
ont commencé les premières greffes de reins, là, si je me souviens, au Québec.
Vous étiez à Montréal même?
À Saint-Bruno.
OK. Et lui, il travaillait à Montréal?
Oui.
OK. Mm. Et votre mère a travaillé dans son domaine?
Oui, elle avait une entreprise Naturaction, que ça s'appelait à Saint-Bruno. Là. Donc, les premiers bacs de recyclage, je pense, c'est à cause de ma mère.
Oh, pour vrai?
Et le compost et tout ça. Okay. Des fois, je dis que je suis née dans le compost.
OK, on peut comprendre vos grands jardins et tout.
Oui, c'est ça.
Et c'est votre mère qui était davantage portée vers les soins naturels.
Oui.
Et comment ça se conjugue, ça, avec un père chirurgien? Est-ce qu'il y avait des frictions?
Non, pas vraiment. Mon père faisait ses choses, puis ma mère était libre de faire ce qu'elle avait envie, puis d'explorer. Puis,
Bien sûr, mais au niveau des discussions, est-ce qu'il y avait des frottements?
Non, pas vraiment. C'est juste que mon père, il n'allait pas nécessairement lui-même consulter, mais il n'y avait, mm-hmm. avait pas de friction là-dessus. Là.
Mm-hmm. Mm. Et c'est à 18 ans que votre mère vous a conduite pour des soins au genou, puis c'est là que vous avez eu la révélation.
Oui.
Voulez-vous nous raconter l'histoire?
Ah, bien, c'est ça. J'avais 18 ans, j'avais mal dans le dos puis au genou, et j'ai été voir une ostéopathe à Saint-Basile qui était de la première cohorte.
Okay.
Donc, quand j'avais 18 ans, je ne sais plus c'était quelle année, mais c'était dans les premières graduées. Là.
Okay.
Donc, j'ai connu l'ostéopathie très tôt.
Mm-hmm.
Et puis, assez vite, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai fait mon bac en ergo, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'ostéopathie à temps plein. Il fallait faire un bac dans une science santé.
D'accord.
Donc, j'ai fait l'ergo, puis je m'étais dit, je vais faire l'ostéo à un moment donné.
Mm-hmm. Depuis que vous avez 18 ans, que vous pensez
à ça? Oui, j'avais vraiment l'idée de faire ça. L'ostéopathie, ça m'intéressait. Et quand j'étais dans ma dernière session d'ergothérapie, j'ai rencontré mon mari actuel.
Oui.
Et on a déménagé dans le bas du fleuve, puis...
En 1999, c'est ça?
En 99, oui. Mon Dieu, ça a l'air 1900 comme si ça faisait vraiment
c'est
longtemps.
C'est vrai, hein? On n'est plus habitué.
Non, c'est 1900. Ça.
Autant qu'on ne dit pas 1800, mais
ouais,
on est bonne.
Oui, puis j'ai eu mes deux premiers enfants, puis c'est à ma troisième grossesse où j'avais un collègue physio.
Oui.
Dans la clinique où je travaillais, qui me disait, je vais faire mon cours d'ostéo. Je disais, mais Colin, ça fait longtemps que je veux faire l'ostéopathie. Puis je me disais, vu que j'avais déménagé à Rimouski, je trouvais que ça faisait loin aller à Montréal. Fait que j'avais un peu mis ça sur la glace.
Mm-hmm.
Puis j'avais eu les grossesses à travers, les congés maternité. Donc, j'avais plus ça en tête dans l'immédiat.
Oui.
Mais quand mon collègue m'a dit qu'il voulait faire ce cours-là, j'ai dit, c'est le temps. Mais finalement, lui, il s'est jamais inscrit.
Pour vrai?
Oui, mais moi, ça a été le petit coup de pied.
Okay, ça a été comme m'inscrire. Un passeur. Hein?
Oui, tout à fait. Oui.
Puis qu'est-ce qu'il faisait, votre mari, Claude Tremblay? Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque?
Lui aussi était biologiste.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Mm.
Bon, bien, vous vous tenez dans les mêmes...
Oui, dans les mêmes domaines, oui.
Okay. Mm. Et pourquoi il est venu...
Dans le Bas-Saint-Laurent, c'était pour finir son bac en biologie marine.
D'accord.
Mm.
Et c'est ici que vous avez eu vos trois enfants?
Oui, c'est ça.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a un des trois enfants qui va suivre votre voie?
Disons, ils sont dans des voies parallèles. Une de mes filles a été très intéressée par la maternité, puis elle a fait son cours d'accompagnante à la naissance.
Oui.
Mon autre fille est très intéressée par les plantes médicinales aussi. Elle est très, très à l'affût des plantes qui poussent naturellement, puis elle sait quoi faire avec. Mm-hmm. Là. Elle est vraiment très bonne là-dedans.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et votre fils?
Mon fils, lui, pas du tout, en informatique.
En informatique. Et comment ça se passe à la maison où, justement, dans une ère où il y a encore beaucoup de produits chimiques, on achète tout à l'épicerie et tout, vous éduquez trois enfants avec, justement, des jardins, des produits naturels, des choses comme ça. Est-ce que vous vous sentez un peu différent ou comment vivent les enfants aussi qui vont à l'école puis qui reviennent, qui sont dans une structure de santé vraiment saine?
Ben, disons, c'est plus à l'adolescence qu'ils vont faire un peu à leur tête. Puis j'ai appris que plus on tire la corde, pire que c'est. Donc, j'ai juste laissé vivre leur expérience. Puis je suis étonnée aujourd'hui que c'est mon fils même des fois qui me dit « Manon, maman, t'as les cuillères de plastique, là, ou les spatules en... » genre de caoutchouc, là.
Ah oui, OK, oui.
Oui, c'est pas bon pour les hormones, puis okay. Oui, c'est vrai.
Donc, les enfants ont comme cette conscience-là.
Tout à fait, vraiment. Ils voient vraiment l'importance de ce qu'on mange, de nos habitudes de vie sur leur santé, puis mm-hmm. de même de tout l'aspect émotionnel Oui, c'est des beaux enfants très conscients.
Oui. Ouais. Justement, Manon, les valeurs que vous avez communiquées à vos enfants, qui étaient des valeurs extrêmement saines, quel lien vous faites avec, en fait, votre éducation, les valeurs que vous avez reçues? Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre?
Dans mon éducation, je dirais qu'il y avait beaucoup de rigueur, de volonté. Mes parents sont des personnes d'action, puis j'ai toujours été une personne d'action aussi. Puis je dirais après, dans mon cheminement personnel, j'ai été très interpellée par l'authenticité.
Oui.
C'est quelque chose qui a été très important pour moi, l'authenticité, l'intégrité. À travers des obstacles, justement, j'ai vu à quel point c'est important, puis que je peux pas transgresser ça. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose que j'ai transmis beaucoup à mes enfants.
Oui. Mm. Et est-ce qu'ils ont bien, accueilli? Ils ont.
Oui, je pense qu'ils ont, ils m'ont vu dans cette transition-là aussi.
Oui.
Partiellement, d'être à l'écoute de mon chemin de vie. Puis, souvent, on me dit que mes trois enfants sont très différents les uns des autres.
Est-ce que c'est vrai?
Oui, ils sont vraiment très différents. Puis, je trouve que c'est une bonne chose. Ça veut dire que je ne les ai pas modelés.
Oui, voilà.
Ils sont très libres d'être qui ils sont. Puis, oui. Je les sens, les trois, très authentiques mm-hmm. aussi.
Chacun suit sa voie.
Chacun suit sa voie. Chacun va selon ses aptitudes, ses envies. Il y a vraiment une belle authenticité chez les trois.
Donc, je pense que votre mari et vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez comme encadré ou supervisé chaque enfant dans son unicité.
Oui, exactement. C'est beau, ça.
Bien, c'est comme ça que je le reçois. C'est-à-dire, vous n'avez pas essayé de faire des enfants à votre image, plutôt, on développe les compétences.
Oui, même chose, comme en ostéopathie, on est à l'écoute des tissus. Là, j'étais à l'écoute de qui sont mes enfants, puis de les voir tels qu'ils sont et les laisser s'épanouir là-dedans. Mm.
Avant d'être ostéopathe, vous avez été, comme on le disait en début d'émission, ergothérapeute de 1998 à 2012. Et vous avez eu une pratique avant d'entreprendre vos études en ostéopathie. Vous nous en avez parlé. Mais l'ergothérapie, c'est aussi une forme de soin. C'est du travail en contact avec des humains. Qu'est-ce qui vous manquait dans cette profession-là?
Les mains. Ah oui, c'est un travail où on est plus dans l'observation. J'observais des postes de travail, j'évaluais le développement d'un enfant et je faisais des rapports. Donc, c'est vraiment un travail d'observation. On va suggérer des adaptations. On est dans le fonctionnel. Là. Comment est-ce que la personne fonctionne dans le moment et comment est-ce qu'on peut la rendre plus fonctionnelle?
Oui.
Mais je ne travaillais pas avec mes mains.
Okay.
Ce que j'aimais le plus en ergothérapie, c'était fabriquer des orthèses.
Pour vrai?
Ça, j'ai adoré. On faisait oui, aussi des orthèses, puis c'était mon dada parce que c'était une tâche manuelle.
Mm-hmm.
Et je voyais les physiothérapeutes traiter à côté de moi parce que j'étais dans une clinique de physiothérapie, puis je me disais, mais moi aussi, je veux mettre mes mains dessus.
Qu'est-ce qui vous a charmé dans l'ostéopathie, Manon?
Le toucher, je dirais en premier. Le contact avec la personne, le temps. Le temps, c'est vraiment... on a une heure, comme je disais, avec la personne. Donc,
oui.
c'est pas... on se sent pas comme un numéro.
Mm-hmm.
L'être humain est vraiment considéré,
oui.
Écouté, entendu. Et ça faisait du bien.
Ah,
en
oui.
fait, quand j'étais jeune, puis je me suis fait traiter en ostéopathie, ça m'a vraiment soulagée plus que n'importe quoi d'autre.
Mm-hmm.
Et encore aujourd'hui, quand j'ai mal en quelque part, c'est la première place où je vais.
Oui. Ouais. Vous consultez une ostéopathe
oui,
aussi.
Oui, oui, oui. Depuis que j'ai 18 ans,
oui.
J'ai toujours une ostéopathe quelque part.
Ah oui.
Oui.
Mais moi aussi, vous savez.
Oui.
Et vous êtes aussi formatrice. Qu'est-ce que vous donnez comme formation et à qui?
À des ostéopathes qui ont déjà fait leur formation. Donc, c'est un cours post-gradué pour des ostéopathes. Et c'est un cours, en fait, c'est l'ostéopathie, l'approche biodynamique de l'ostéopathie que j'ai appris par un ostéopathe français du nom de René Brien,
oui,
qui est décédé en 2022. Mm-hmm. Mais il est venu au Québec de 2014 à 2020 et j'ai suivi tout le cursus avec lui. Et il voyait déjà qu'il voulait léguer son enseignement, donc des enseignants en France, en Italie, en Russie, mm-hmm, un peu partout. Et il m'a demandé d'enseigner son cours et j'enseigne avec un collègue le cours au Québec. Mon collègue l'enseigne maintenant plus à Halifax et Vancouver.
Okay.
Moi, j'enseigne au Québec.
Et puis, vous enseignez à des ostéopathes, je présume qu'ils doivent déjà avoir une pratique. Ce ne sont pas des ostéopathes qui viennent de terminer leur cours.
Il pourrait. C'est sûr que bon, c'est bon d'avoir déjà une main habilitée, mm-hmm, mais c'est quand même bon parce que l'approche biodynamique de l'ostéopathie, c'est vraiment la continuité des fondements de l'ostéopathie.
Okay.
En fait, on est revenu en arrière aller chercher ce qui a été un peu perdu en cours de route pour des raisons, comme je disais,
oui,
politiques, de reconnaissance et tout ça. Mais les fondements de l'ostéopathie, il y avait tout cet aspect-là tridimensionnel de la personne.
Mm-hmm.
Et c'est des aspects qui ont été repris par un ostéopathe américain qui s'appelle James Jealous, qui a suivi justement d'autres ostéopathes dans la lignée directe de ceux qui ont gardé vraiment les racines.
Oui.
Le filon s'est maintenu. Et René Brien avait la même conviction ou la même... C'était très important pour lui de garder ces fondements-là.
Mm-hmm. Et là, on parle de René Brien, puis on a parlé un petit peu plus tôt de Andrew Taylor Steele.
Mm-hmm.
Est-ce que toutes les écoles privées partent, en fait, l'enseignement part de ces deux piliers-là de l'ostéopathie?
Je crois que oui. J'espère que oui. Oui, c'est quand même, si on n'a plus nos racines, c'est plus de l'ostéopathie.
Mm-hmm. Mm. Donc, après, la façon de l'enseigner ou... ça, c'est différent ou ça peut être différent, mais la base est quand même de ces deux hommes-là, c'est ça?
Oui, en fait, il y avait Andrew Taylor Steele et un de ses étudiants a développé le concept crânien. Et ça, c'est très intéressant, en fait,
oui,
parce que c'était... vous voulez que j'ai la barre,
oui,
hein?
Oui, je vous regarde, là, puis je suis comme... Oui,
oui, j'ai des étoiles dans les yeux en en parlant.
Oui, oui, oui.
Il s'appelait William Gardner Sutherland. Et lui, quand il était étudiant, il passait à côté d'une vitrine où il y avait un crâne désarticulé dans, mm-hmm, dans la vitrine au collège d'ostéopathie
oui,
à Kirksville. Et il était fasciné par les biseaux qu'on voit entre les sutures de... Les sutures du crâne sont
oui,
biseautées. Et il avait l'idée folle de... Il doit y avoir un mouvement. Ça ressemble à des branchies de poisson.
Okay.
Donc, ça doit respirer. Mais il s'est dit ça comme un peu... OK, on va tasser cette idée folle.
Oui.
Mais cette idée l'a obsédé. Et puis, il n'arrivait pas à s'en départir. Donc, mm-hmm, tranquillement, plus tard, il s'est fait des bandages sur la tête pour... comprimer, finalement, empêcher son crâne de bouger.
Okay.
Puis là, il s'est aperçu qu'il y avait plein de répercussions dans son corps.
Okay.
Et il observait s'il comprime telle place, s'il se passe telle chose. Puis il voulait être un observateur de premier ordre. Donc, il voulait pas faire ça à quelqu'un d'autre.
Ben
il
oui,
voulait lui-même l'expérimenter.
Oui, le sentir.
Oui, le sentir, mm-hmm, pour pouvoir vraiment avoir une observation mm-hmm, directe. Et là, sa femme le retrouvait dans son bureau avec toutes sortes de bandages. Puis des fois, ça pouvait être un peu épeurant. Donc, c'est encore là, comme le fondateur de l'ostéopathie, c'est deux hommes qui ont été très alignés sur leurs idées,
oui,
et qui ont continué malgré l'ostracisation. Ils pouvaient se faire traiter de charlatans, mm-hmm, ou même Sutherland qui était vraiment dans la continuité.
Oui, 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 oui.
Et c'est lui, William Gardner Sutherland, qui s'est rendu compte à force de travailler avec le crâne,
oui,
qu'il y avait un mouvement.
Mm-hmm.
Que les os du crâne bougeaient,
oui,
respiraient.
Mm-hmm.
Et donc, justement, que son idée folle s'est avérée vraie.
Oui.
Il y a eu un mouvement de respiration et c'est comme une respiration des cellules du corps.
Mm-hmm.
Le corps respire en entier parce qu'il est vivant.
Oui.
Donc, on n'est pas une voiture. On est, mm-hmm, on est un être vivant qui respire.
Tout à fait.
Mm.
Et vous avez dit, parce qu'au début, on a parlé un peu de spiritualité, puis j'aimerais qu'on y revienne. Vous avez dit, j'ai appris la place de la spiritualité dans l'ostéopathie. La spiritualité, ce n'est pas une religion ou un dogme. C'est une aptitude à percevoir des forces environnementales et les mettre en relation avec des forces inhérentes au corps.
Mm-hmm. Bien, c'est dans la belle continuité de ce que je disais là.
Oui.
Qu'est-ce que cette respiration-là,
mm-hmm.
qui est perçue dans le corps qui respire, c'est la vie qui
oui.
est partout, qui est partout autour, mm-hmm. qui est à l'intérieur de nous. Et comme je disais aussi tout à l'heure, où si on regarde l'être humain au niveau microscopique, on est de l'énergie en mouvement.
Oui.
Puis si on regarde au niveau macroscopique, on fait mm-hmm. partie d'un univers. On n'est pas séparés de l'univers.
Il n'y a pas de cloison.
Non, il n'y a pas de cloison.
Mm-hmm.
Et je pense que déjà, le fondateur voyait cette vision-là. D'ailleurs, il parle beaucoup des similarités entre le microcosme et le macrocosme.
Mm-hmm.
Donc, mais
qui sont pour nos auditeurs?
Le petit univers à l'intérieur de nous, si on voit avec un microscope petit,
oui.
petit, mm-hmm. on est de l'énergie en mouvement. Puis si on agrandit, on zoome, on dézoome, on s'en va dans l'univers. Finalement, le système solaire ressemble à un atome.
Mm-hmm.
Donc, tout est la même chose.
Oui,
on n'est pas séparés les uns des autres et de l'univers.
Quelle est l'importance de la transmission, Manon? Vous en parlez souvent.
Oui, oui. En fait, c'est parce que je suis passionnée. Oui, pour avoir lu les fondements de l'ostéopathie, je vois que c'est vraiment une conviction profonde qui est alignée avec mes propres valeurs sur le sens de la vie. Puis ça vient naturellement de vouloir le transmettre.
Manon Smisters, vous avez 49 ans et vous nous parlez avec passion de l'ostéopathie. Mm-hmm. Vous nous avez expliqué comment ça se passe, tout ce qui vous anime. Vous avez aussi d'autres passions.
Oui.
Quelles sont-elles?
En fait, j'aime bien avoir une vie équilibrée. Le mot équilibre a été aussi très important dans ma vie. Donc, je ne fais pas du tout que de l'ostéopathie. Mm-hmm. J'en ai une partie de mon quotidien, c'est ça. Mais j'ai un grand jardin. Le sport est très important pour moi aussi.
Mm-hmm.
Et les arts et la musique. Donc,
oui.
un peu de tout. Je suis dans une chorale.
Oui.
Donc
le chant.
Oui, le chant. J'ai joué du violoncelle. J'ai joué du piano plus jeune. Donc, la musique est très importante pour moi. Le jardin, c'est les mains dans la terre, c'est la vie qui me nourrit, c'est prendre le soleil, être dehors, ça fait vraiment du bien. Puis ça me connecte avec la nature aussi, ce qui mm-hmm. m'aide à être plus centrée après
oui.
dans ma pratique.
Et vous habitez sur le bord du fleuve.
Oui, oui, j'ai une superbe vue pour travailler.
Oui.
Oui.
Et le sport, qu'est-ce que vous pratiquez?
La course à pied. Et en hiver, je vais combiner avec le ski hors-piste. Puis mm-hmm. en été, c'est plus le vélo.
OK.
Mais j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Puis c'est quelque chose de très important qui contribue à mon équilibre. Puis
à votre santé.
À ma santé, oui, c'est ça. Si j'ai été une semaine sans faire d'exercice, je sens que mon corps est un peu encrassé.
Mm-hmm. C'est vraiment une vie équilibrée. On rêve de ça. Hein?
Oui, c'est drôle parce qu'à un moment donné, il y a peut-être un peu moins de 10 ans, je m'étais dit, j'ai hâte à la retraite de pouvoir prendre mon temps en me levant le matin puis de déjeuner tranquillement. Mais c'est parce que je travaille autonome, je peux le faire tout de suite. J'ai comme réalisé que j'avais pas besoin d'attendre à la
oui,
retraite. Effectivement. Pourquoi je me torture comme ça? Donc là, je commence jamais avant 9h45.
Ah oui,
j'ai
okay,
toujours le
premier
temps
rendez-vous,
matin.
9h45.
Oui, puis j'ai le temps d'aller faire mon petit jogging si c'est la journée que je jogue. J'ai le temps de prendre le temps de déjeuner, oui. de me poser avant de commencer à travailler.
Mm-hmm.
Donc tout ça, c'est très important pour moi.
Et vous faites aussi, vous offrez, en fait, sur votre site Internet, la méditation guidée.
Mm-hmm.
De quelle manière on a accès à ça?
Il faut aller sur mon site Internet.
Oui.
Qui s'appelle ostéopathie-biodynamique.ca. et c'est dans auto-soins. Si on va dans description de cours, il y en a un qui c'est auto-soins, ou dans le blog, il y en a aussi. C'est la même chose, en fait. C'est deux façons différentes d'y accéder. Et avez-vous des questions là-dessus?
Mais en fait, l'idée de faire justement de la méditation guidée, c'est aussi de s'auto-guérir.
Oui, c'est ça, parce que je réalise que, comme je disais, que je fais pas grand-chose quand je soigne les gens. C'est le corps qui fait beaucoup, et c'est beaucoup la présence. Mais c'est pas vrai qu'on fait rien, là.
Ah ben non, moi, je le sais. Je le sais que c'est pas vrai.
En fait, ça prend beaucoup plus de présence quand l'autre a l'impression qu'on fait rien.
Oui.
Si je suis dans le manuel, je peux placoter de la pluie puis du beau temps.
Oui.
Mais si je suis vraiment dans la présence, dans les tissus, profondément, dans tout l'être, dans vraiment connecté à ce qui se passe, j'ai besoin de pas penser à ce que je vais faire à souper.
Oui, bien sûr.
Ouais, donc, ça demande beaucoup plus de présence.
Mm-hmm. Donc, on parlait de l'auto-guérison. Donc, les gens peuvent s'auto-guérir ou en tout cas calmer leur...
Bien, premièrement, je le fais systématiquement, déjà me centrer avant de travailler, mais à me rendre compte à quel point le corps répond à la présence et à la conscience, c'était clair pour moi que si je le fais sur moi, il va avoir une réponse aussi.
Oui.
Et quand il y a des endroits dans notre corps qui sont en douleur ou enraidis, tendus, c'est des zones qui sont moins habitées, qui sont moins conscients. Qui ont besoin de présence et d'attention.
Oui. Donc, nous, en allant sur votre site, on peut s'en faire aussi de l'auto-guérison en suivant votre méditation.
Oui, c'est ça. Je donne un cours sur l'auto-soin à des ostéopathes et à des... un peu monsieur et madame tout le monde. Et là, j'ai mis quelques pratiques pour donner une idée puis que les gens puissent essayer à la maison.
Mm-hmm. Donc, moi, je vous encourage à aller essayer parce que c'est vraiment aidant. Je l'ai fait. Mm-hmm. Vous êtes à la recherche, Manon, vous en avez parlé un peu. On va aller plus en profondeur de la vérité, l'intégrité, l'honnêteté, la cohérence. Tout ça, c'est important pour vous.
Oui.
Et pourquoi c'est aussi important? C'est comme même crucial dans vos relations.
En fait... mon corps ne réagit pas bien lorsque je ne suis pas à l'écoute de ma petite voix à l'intérieur. Mm-hmm. Je me rends compte... En fait, mon corps est mon guide à savoir si je suis bien alignée ou pas. Puis quand je me sens tendue, oppressée, les épaules tendues, je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait bien aligné.
Oui.
Donc, il y a eu un moment de ma vie où j'étais pas tout à fait dans la vérité avec moi-même, puis je me suis un peu effacée. Disons, à l'adolescence, ça a été difficile. Puis c'est comme si à l'intérieur de moi, ça parlait fort que j'avais envie de vivre. Mm-hmm. J'avais envie de vivre, puis j'avais envie de vivre dans la vérité. Puis je m'étais écrit à ce moment-là dans un petit carnet. À partir de ce jour, je me dis toujours la vérité. Ça suffit de me mentir à moi-même. Mm-hmm. Parce qu'on se ment à soi-même en se faisant croire ça me dérange pas, ou tout va bien, ou je pense que c'est un peu tout le monde qui fait ça.
Oui.
Puis pour moi, ça a été important d'être toujours honnête avec moi-même.
Donc, quand ça dérange, vous le dites?
Oui. J'essaie de le trouver. Je suis toujours à m'introspecter, à voir, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas, puis j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi.
Oui, oui. Et présentement, vous êtes en train d'écrire un livre, justement, sur la contribution de votre maître, René Brien, sur son approche biodynamique de l'ostéopathie. À qui s'adresse ce livre?
Ça s'adresse à des ostéopathes. Ça va être complexe comme livre. Je n'écris pas ce livre. Je vais chercher tous les éléments que René Brien a développés. Et c'est pas, je veux juste rectifier que c'est pas lui qui a développé l'approche biodynamique. C'était déjà James Jealous aux États-Unis. Et René est un étudiant de James Jealous. Mais il a continué.
Okay.
Il a continué et il n'a jamais écrit. À un moment donné de son vivant, je lui dis, mais pourquoi t'écris pas ce que tu fais? C'est super important. Puis il se plaignait un peu que les gens reprennent sa terminologie, mais pas de la bonne façon, et se l'approprient. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'était vraiment important de rendre à César ce qui appartient à César.
Oui.
Donc, c'est ce que je me suis engagée à faire.
Eh bien, c'est tout à votre honneur. La dernière question, j'aime bien demander... En quelques mots, pourquoi vous vous levez le matin?
En fait, je me lève pas tout de suite le matin. J'aime bien quand je me lève, rester au lit.
Méditer.
Mais je sais pas si c'est de la méditation, mais je suis tellement confortable dans mon lit. Puis juste de respirer le matin quand je me lève, ça, fait du bien de respirer. Donc, j'aime bien rester un petit moment, juste apprécier le moment présent. Puis, à un moment donné, j'ai envie de soit aller jogger ou de commencer ma journée. Allez, j'ai faim, je vais aller déjeuner mon bon smoothies en commençant la journée.
Merci beaucoup, Manon Smithers, pour d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir ouvert à l'ostéopathie. Donc, ainsi prend fin notre émission. Merci à toute l'équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.